problème de Rwandais qui vivent au Congo, si ces Rwandais vont accepter d'avoir une nationalité congolaise une et exclusive. Mais sinon, tout a été déjà calculé. La même constitution a été écrite ailleurs, pas en République démocratique du Congo. Hein. Cette constitution, c'est l'œuvre de plusieurs États occidentaux et africains, bon, qui ont leurs propres intérêts. Hein.
Ça veut dire qu'il y a une forte influence étrangère ou même ingérence occidentale aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Il y a un parti politique, le Rassemblement congolais démocratique, le RCD, c'est un parti d'obédience rwandaise. C'est comme si, bon, à travers ce parti politique, ben nous créions, comme on dit, une soupape de sécurité au cas où les choses n'iraient pas bien au Rwanda. C'est là où il y a l'ambiguïté, parce que beaucoup parmi ces politiciens ont la double nationalité. Ils ont, comme on dit, la carte d'identité congolaise et puis ils ont le passeport rwandais. Et alors, c'est un problème que la communauté internationale doit résoudre d'une autre manière, pas en transposant le problème en RDC. Ce n'est pas la force du droit là qui est appliqué, c'est plutôt le droit de la force pratiquement, hein, parce que le Rwanda actuellement est très fort, le Rwanda est appuyé par les États-Unis d'Amérique, par l'Angleterre, bon, ils imposent la loi, même dans l'équilibre ou la stabilité précaire de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier le problème de l'armée, on va aux élections, mais on n'a pas une armée, donc les frontières congolaises ne sont pas protégées. Ça c'est vraiment une fragilité, hein. Même s'il y a un gouvernement qui sera élu au mois de juin 2006, ça sera toujours un gouvernement fragile parce que ce gouvernement ne peut pas compter sur une armée républicaine unitaire d'obédience congolaise.
Y a-t-il d'autres ambiguïtés dans ce texte de constitution qui menacerait l'identité congolaise?
La notion de décentralisation, parce que c'est une notion qui est très minée dans cette constitution. C'est comme si on est en train de glisser vers un fédéralisme. Ce fédéralisme risque ou implique un beau jour qu'il y ait la sécession en République démocratique du Congo. Donc le Katanga peut se détacher, le Kivu peut se détacher, être, n'est-ce pas, une province rwandaise. Ce sont les risques qui sont dans cette constitution.
On sait également que les instances politiques du pays sont rongées par la corruption. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale qui, faut-il le rappeler, est représentée sur place par une mission de l'ONU très influente?
Les Nations Unies et l'Union européenne peuvent sincèrement repenser leur rôle à côté du Rwanda et de l'Ouganda. Si vraiment les Nations Unies et l'Union européenne vraiment arrivent à bloquer toutes ces armées étrangères, je pense qu'en ce moment-là, alors on peut retrouver une certaine stabilité. Et alors à partir de là, la stabilité en RDC signifie la stabilité, n'est-ce pas, de toute l'Afrique centrale. Qu'il y ait vraiment une certaine clarté et une fermeté que les Nations Unies n'ont pas démontré jusqu'à aujourd'hui, que l'Union européenne n'a pas démontré. Et puis, moi je pense que les mêmes troupes de la MONUC qui sont là en RDC, ces troupes doivent continuer vraiment à exercer leur rôle pour désarmer, honnêtement, n'est-ce pas, ces armées rwandaises qui sont toujours présentes en RDC. Utiliser un langage sincère. On ne doit pas, sur la question rwandaise, se taire, faire semblant, parce que ces gens sont super payés, pendant que le peuple congolais croupit dans la misère. On comprend que ces missions-là de l'ONU sont là également pour leurs propres intérêts. Parfois, ce n'est pas pour les intérêts, n'est-ce pas, de peuples qui souffrent.